Alors, ce que je vais vous montrer là, c'était apparemment l'info chrétienne de la semaine. Hop, ça vient.
Un mannequin italien abandonne sa carrière pour devenir prêtre. À 21 ans, Eduardo Santini a annoncé sur Instagram qu'il souhaitait rentrer dans les ordres. Après avoir été élu plus bel homme d'Italie en 2019, le jeune homme se prédestinait plutôt à une carrière d'acteur. Mais l'année dernière, il a donné à sa vie un tout autre tournant en mettant de côté le mannequinat, le théâtre et la danse. Il est alors parti vivre avec deux prêtres et explique aujourd'hui que cette expérience a changé sa vie. Il s'est ensuite mis à étudier la théologie et à travailler dans deux paroisses du diocèse de Florence.
Il y a ceux qui parlent dans mon dos, ceux qui n'ont aucun problème à me dire que je suis une déception, même dans ma famille, mais il y a aussi ceux qui me soutiennent, croyants et non-croyants.
Il est désormais en année préparatoire avant d'entrer au séminaire pour pouvoir devenir prêtre.
Alors, c'est une info qui a été relayée par BFM, par CNews, par Le Parisien, par 20 minutes. Apparemment, c'est une grande info. Mais c'est quoi le scoop ici? C'est quoi, en fait, le scoop ici? Moi, je me suis un peu posé la question. Des gens qui s'orientent vers la prêtrise, vers le pastorat, il y en a un paquet. C'est quoi le scoop? Le scoop, c'est qu'on a là quelqu'un qui incarne en lui-même, je dirais, les valeurs de ce monde, la beauté, le succès, l'argent. Quelqu'un qui finalement possède ce que beaucoup de gens mettent au pinacle d'une vie réussie. Et ce quelqu'un, loin d'en profiter, loin d'en exploiter le filon jusqu'à la dernière goutte, s'en détourne et en plus il le fait pour quelque chose d'absolument méprisable, devenir prêtre, rendez-vous compte. Alors ça, le monde qui nous entoure, ça le défrise. Alors, je ne vais pas m'épancher sur l'opportunité ou non de devenir prêtre, il ne vous aura pas échappé que je suis devenu pasteur, mais je voudrais quand même considérer ceci. Visiblement, le monde se laisse interpeller quand quelqu'un lui dit « En fait, il y a plus grand, il y a plus beau, il y a plus solide que tout ce que tu peux considérer toi comme étant le plus grand, le plus beau et le plus solide de ce que la vie a à nous offrir ». Il y a plus grand, il y a plus beau, il y a plus solide que ça. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Il y a là, je crois, de quoi nous mettre le pied à l'étrier concernant notre manière d'être témoin du Christ dans le monde, parce qu'une parole a été prononcée sur nos vies. Une parole a été prononcée sur nos vies par le Christ. On ira la lire tout à l'heure dans la Bible. Je vais prier, mais d'abord, je vais m'auto-saboter mon effet de suspense. Voilà. Je vais prier et on ira lire cette parole en Matthieu 5. Seigneur, vraiment, nous voulons nous rappeler effectivement ce matin que en toi, il y a plus beau, plus grand, plus solide que tout ce que le monde peut nous offrir, tout ce que le monde nous présente comme le succès, comme ce qui est désirable, Seigneur. Bien sûr, il y a de belles choses et de bonnes choses dans ces choses-là, mais il y a aussi plus beau, plus grand, plus solide. Seigneur, merci pour ta parole qui nous montre ce qui est plus beau, plus grand et plus solide. Et Seigneur, nous te prions pour que cette parole, ce matin, nous atteigne, pour qu'elle s'ancre en nous, et pour qu'elle porte son fruit dans nos vies. Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles en Matthieu 5. Au verset 13 à 16. Matthieu 5, verset 13 à 16. Et maintenant que je me suis assuré que vous êtes allé chercher ça dans vos Bibles, je vous l'affiche. Ces quelques versets nous disent ceci. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Et il leur dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est un texte bien connu, évidemment. C'est un texte qui fait partie d'un ensemble qui est bien plus grand, qu'on appelle le Sermon sur la montagne, et qui s'étend sur trois chapitres, du chapitre 5 au chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. On est là au tout début du ministère de Jésus, on est juste après son baptême et la tentation dans le désert. Et au début du chapitre 5, d'où vient donc ce texte, il nous est dit que, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. L'évangile de Matthieu, c'est un évangile qui est très structuré, souvent par thème, par thématique. Il est composé de cinq grands discours qui rappellent les cinq livres de Moïse, le Pentateuque. Et cette référence à la montagne n'est probablement pas anodine. Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï, et Jésus, dans ce discours, lui aussi au sommet d'une montagne, va maintenant donner l'interprétation, je dirais, correcte de cette loi, la bonne manière de la comprendre. Et il s'assoit comme le faisaient les enseignants, et ses douze disciples ne vont pas rester au pied de la montagne à se fabriquer un veau d'or, comme les douze tribus d'Israël l'ont fait, tandis que Moïse s'approchait seul de la présence de Dieu, mais ils vont tous monter auprès de Jésus pour l'écouter. Pourquoi ? Parce que cette parole de Dieu s'est incarnée et elle est maintenant accessible à tous. Il n'y a plus besoin d'un intermédiaire entre elle et nous. Il s'assoit donc au pied de Jésus pour l'écouter. Et Jésus commence son enseignement sur cette montagne par ce qu'on appelle les béatitudes. C'est toute cette série de sentences où Jésus commence en disant « bienheureux, bienheureux ». Voilà, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les affligés, etc. Après ces béatitudes, on a ce texte qui est là. Et puis, suite à ce texte, Jésus affirme qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse ou les prophètes, il est venu accomplir cette loi. C'est aussi dans le sermon sur la montagne que Jésus va dire « Vous avez entendu que, mais moi je vous dis que ». Alors, ce n'est pas en contradiction, en fait, il va jusqu'au bout de la logique de la loi. Vous avez entendu qu'il ne faut pas convoiter. Moi, je vous dis que celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle, etc. On est dans une sorte de transition, ici, je crois, dans l'histoire du salut. On n'entre pas dans une révélation nouvelle, mais on entre dans une ère nouvelle de la révélation, je le dirais comme ça. Jésus se trouve à ce moment-là face à ses douze disciples qui sont fraîchement appelés et à ses douze villageois qui ne savent pas encore vraiment où ils ont mis les pieds ni où tout ça va les mener. Il leur dit à eux, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il y a, je crois, un mot qui est assez lourd de sens là-dedans. Alors on pense évidemment à sel de la terre, lumière du monde, mais d'abord, il y a ce mot. Ça, c'est de la diapo efficace. Vous. En grec, l'usage du pronom indique l'insistance. Quand c'est précisé, c'est que c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Ce « vous », il distingue les disciples du reste du monde. Jésus vient établir le royaume de Dieu et il en explique les règles dans le sermon sur la montagne. John Stott, qui est un théologien bien connu, dit ceci, il dit « Le sermon sur la montagne nous montre ce que sont la vie et la société humaine quand elles sont soumises à l'autorité bienveillante de Dieu. Cette société et cette vie nouvelle se caractérisent par la différenciation. Les vrais disciples, citoyens du royaume, doivent être fondamentalement différents des autres hommes. Ils n'ont pas à prendre exemple sur ceux qui les entourent, ils ont à prendre exemple sur le Christ. » Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait déjà à son peuple de se différencier des peuples alentours, notamment par l'alimentation, mais aussi par leurs us et coutumes, disons-le comme ça. Par exemple, on ne va pas sacrifier les enfants. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous différencie des peuples alentours, en tout cas dans l'Ancien Testament. Et à nous, aujourd'hui, Dieu nous demande d'être au milieu des non-croyants, de vivre avec eux, mais il nous dit aussi de ne pas vivre comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, c'est bien connu. Ne leur ressemblez pas, dit Jésus à ses disciples en Matthieu 6, verset 8. Alors, quand on lit ce texte aujourd'hui, le texte qu'on a lu, on peut se dire, c'est vrai. C'est vrai que les millions de chrétiens qu'on trouve de par le monde sont effectivement sel et lumière pour le monde. À nous tous, globalement, on influence positivement la société. Et puis en même temps, quand on pense à notre propre petite vie, à la façon dont peut être reçu parfois notre témoignage quand timidement on se lance à parler de notre foi, on peut aussi se dire, d'accord, les chrétiens dans leur ensemble, oui, on est sel et lumière, mais enfin moi, dans mon petit coin, je pèse pas bien lourd. Tout au plus, une petite veilleuse sympathique, une petite bougie dans mon entourage éventuellement, et encore. Et je crois que si c'est ce que nous pensons, eh bien, il est peut-être temps pour nous d'assumer ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Parce que dans notre texte, il n'y a pas devant Jésus des millions de disciples. On est au tout début de son ministère public. Il y a une foule devant lui, c'est vrai, mais des disciples à proprement parler, il y en a 12 dont on sait que Jésus les a appelés, et puis il y en a peut-être quelques autres qui, effectivement, dans la foule, reconnaissent en lui le Messie. Mais ce n'est pas des millions de disciples qui sont là dans le monde entier. Ces 12-là, cette poignée de disciples-là, ne comptent pour rien à l'échelle de la planète. Leur témoignage, il est insignifiant. Ils sont là, assis au pied de Jésus, dans un coin perdu de la Galilée, et c'est bien à eux que Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Et ce « vous », eh bien, ce n'est pas celui de la multitude. C'est un vous de boîte d'œufs, 2 demi-douzaines. Eh bien, ça ne fait pas beaucoup pour le monde entier. Ça ne fait pas beaucoup. Vous êtes la lumière du monde. Je peux les imaginer se regarder les uns les autres en se disant « Nous, t'es sûr, vraiment ?» Et je crois que ça veut dire que Jésus nous regarde, nous ici, à l'église baptiste de Chambéry, son église, et quand il nous regarde, il ne se dit pas « Bof !» Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il soit à peine 200 sur une agglo de 140 000 habitants. En fait, probablement, c'est nous qui voyons petit. Jésus, lui, nous regarde et il dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » C'est une belle parole prononcée sur nous, je trouve. On pourrait peut-être commencer modeste en disant « On est le sel de la Savoie. » Ce serait bien, déjà. On est la lumière de la Savoie. Mais il est plus ambitieux, vous voyez. Il va plus loin. C'est donc ce que nous sommes. Mais qu'est-ce que ça signifie? D'abord, le sel de la terre. En Galilée, au 1er siècle, il n'y avait pas de frigo. Voilà, vous avez appris un truc, vous avez bien fait de venir. Ça valait la peine. Pour conserver la viande, on la mettait dans du sel. Tu es le sel de la terre. Ça veut dire que tu es l'agent de conservation du monde. Que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience, par ta seule présence, par ton action, par ta manière d'être, tu contribues à ce que le monde ne se décompose pas, avant même que tu aies ouvert la bouche, quoi. Et c'est pour ça que Jésus nous appelle à rester dans le monde. On l'a entendu, je crois, la semaine dernière, quand Alexandre nous parlait de la famille Camp au Tchad et qu'il nous disait... Ils ne peuvent pas proclamer librement l'Évangile. Et on se dit, mais ça sert à quoi d'être missionnaire si tu ne peux pas proclamer l'Évangile, en fait? Moi, je croyais qu'un missionnaire, c'était quelqu'un qui allait proclamer l'Évangile dans des endroits où ils ne l'ont jamais entendu. Alors oui, évidemment, on peut penser la mission comme ça, mais la mission, ça sert aussi, dans certaines contrées, très arides peut-être, à être celle de la terre. Là où les chrétiens se trouvent, ils contribuent par leur seule présence, par leur vie, avant même d'ouvrir la bouche, à ce que le monde ne se décompose pas, à ce qu'il ne s'enfonce pas plus loin dans les ténèbres. Par leur attitude, par leur manière d'être, ils labourent le terrain, ils enlèvent les cailloux, ils enlèvent les mauvaises herbes, parce que leurs actions et leurs paroles sont empreintes des valeurs du royaume de Dieu. De telle sorte qu'un jour, une semence peut être lancée, et puis deux, et puis une poignée, et puis à la fin, des sacs entiers. John Stott, encore lui, disait ceci, « Quand le monde va mal, les chrétiens ont tendance à lever les bras au ciel dans un mouvement d'horreur pieuse et à faire des reproches à ceux qui ne croient pas, au lieu de s'en faire à eux-mêmes. Peut-on reprocher à de la viande non salée de se décomposer ? Ne serait-ce pas plus judicieux de se demander ce qu'est devenu le sel ? Alors vous me direz, c'est facile à dire pour lui, parce qu'il était anglais, mais nous, français, je veux dire, si on ne peut plus se plaindre de l'état du monde, où va-t-on, quoi ? Non ? Blague à part, à chaque fois que nous nous plaçons en juge du monde, en fait, on s'auto-exclut du monde. On se place au-dessus, on se place à côté, mais en tout cas, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Et Jésus nous dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Eh bien, le sel au-dessus du plat, à côté du plat, c'est du sel qui passe à côté de sa vocation. Il ne sale rien. On est fait pour être dans le plat. On est fait pour être dans le plat. Il s'agit là de notre engagement dans la société, que ce soit par la politique, par l'action humanitaire, par un engagement associatif, par notre implication dans le conseil d'école ou que sais-je. Toutes ces activités sont partie prenante de notre vocation chrétienne à être celle de la terre. Si ça se trouve, vous êtes au conseil d'école de l'école primaire de vos enfants et vous n'aviez même pas conscience que vous êtes celle de la terre, précisément là-bas, bien plus que quand on est ici. Mais Jésus dit de nous quelque chose qui est peut-être encore plus engageant, et vous l'aurez compris, il dit que nous sommes la lumière du monde. Mais attendez, qui dans la Bible dit de lui-même qu'il est la lumière du monde ? Oh, c'est facile, hein, c'est niveau école du dimanche. Hein. Non ? Vous l'avez pas ? Si ? Plus fort, j'entends pas ? Oui, ben voilà, quand même. Quand même, c'est Jésus qui dit qu'il est la lumière du monde. C'est en Jean 8, verset 12. Moi, Laurent, je ne suis pas la lumière du monde, ça se saurait. Enfin, je pense que ça se saurait. C'est Jésus la lumière du monde. Nous, nous sommes la lumière du monde dans la mesure où Jésus vit en nous. Cela étant dit, la Bible dit aussi de nous, nous tous, là, que nous sommes corps du Christ. Jésus vit au milieu de nous par son esprit. Il règne au milieu de son peuple. Et à ce titre, nous sommes, nous, la lumière du monde. Alors quand Christ règne, qu'est-ce qu'on voit ? On peut penser à l'Église, on peut penser aussi à nos propres vies. Pensons à l'Église, nous voyons les béatitudes. Nous voyons une Église pauvre d'esprit, c'est-à-dire une Église consciente de sa pauvreté spirituelle et de sa dépendance de Dieu. Nous voyons une Église affligée par les ravages du péché dans le monde. Nous voyons une Église douce et humble de cœur, qui a faim et soif de justice. Nous voyons une Église miséricordieuse au cœur pur, qui procure la paix. Nous voyons une Église persécutée pour la justice, insultée et calomniée à cause du nom de Jésus. Et nous voyons aussi une Église heureuse, parce que le royaume des cieux lui appartient, parce que Dieu la consolera, parce qu'il lui donnera la terre en héritage, parce qu'elle sera rassasiée, parce qu'elle obtiendra miséricorde, parce qu'elle verra Dieu, parce que sa récompense sera grande dans les cieux. Les œuvres de cette Église attirent les regards, parce que ce sont des œuvres lumineuses. Malheureusement, nous dit Jésus, cette lampe que nous sommes, cette lumière que nous sommes, il est possible de la mettre sous le boisseau. À l'époque de Jésus, on s'éclairait à la bougie. Deuxième info, il n'y avait pas de frigo et on s'éclairait à la bougie. Le boisseau, c'était une mesure à grain d'environ 25 litres. Alors autant dire qu'une bougie sous une mesure à grain de 25 litres, ben, elle éclaire, mais elle éclaire l'intérieur du boisseau. Et je me demande si le boisseau du XXIe siècle ne ressemble pas à un bâtiment d'église. On y moue le grain de la parole de Dieu, on s'en nourrit tous ensemble, on s'engraisse jusqu'à se marcher les uns sur les autres. La lumière brille fort, mais elle brille à l'intérieur du boisseau. Alors, je vais être franc avec vous, je ne suis évidemment pas le mieux placé pour parler de l'extérieur du boisseau. J'en suis pas fier, hein, mais ça prend feu, il y a un truc, d'accord. Ben, ça éclaire au moins, ça... Je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'extérieur du boisseau. En fait, vous êtes tous mieux placés que moi pour en parler parce que vous êtes étudiants, vous avez des collègues, vous avez des clients, vous fréquentez peut-être des clubs de sport. Mon horizon de pasteur, à de rares exceptions près, c'est le troupeau, et pas n'importe lequel, le troupeau bien établi, en fait, qui est déjà bien au chaud dans l'enclos du bon berger. Mon horizon à moi, la plupart du temps, c'est l'intérieur du boisseau. Et c'est sans doute une erreur, c'est probablement pas une bonne chose, parce qu'en fait, le gros du troupeau, ben, il se trouve pas là. Il se trouve pas là. Il y a à l'extérieur de ce bel enclos des milliers de brebis qui errent effectivement sans berger. Alors maintenant, je dois vous dire que ça fait des mois que je suis interpellé par une maison qui est située à proximité du lycée Saint-Ambroise à Chambéry. Alors, ce n'est pas que je compte l'acheter. C'est une maison qu'on appelle, je ne crois pas me tromper, j'espère que je ne me trompe pas, mais bon, on verra. Sinon, on me rectifiera. Cette maison, on l'appelle la maison Le Jaune, parce que c'est le nom de ses propriétaires. En fait, c'est l'ancienne ambassade d'Italie à Chambéry. Je ne sais pas si vous voyez où elle se situe, si vous la connaissez. Donc, c'est une belle bâtisse. Et les propriétaires de cette ancienne ambassade d'Italie, c'est un couple de catholiques, et ils occupent la moitié de la maison. Et dans l'autre moitié, ils ont décidé de mettre en place une colocation entre des étudiants et des personnes en situation de précarité, ce qui est déjà super, enfin super généreux, super chouette. Ils travaillent en collaboration avec la CFP, notamment, c'est comme ça qu'on les connaît. Et dans cette maison, ils ont aussi un espace, qui est un espace assez grand. Et cet espace, ils veulent le mettre à disposition de jeunes chrétiens. Leur souhait, c'est que des jeunes en marge de l'église puissent raccrocher les wagons par le biais d'un lieu plus informel qu'un bâtiment d'église. Et il y a une chose que nous savons, c'est que nos propres jeunes, ici, sont sur le coup. On ne sait pas encore quand, mais ils devraient pouvoir investir le lieu pour une partie de leur réunion. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont déjà plus de 50 sur le listing des jeunes qui fréquentent le groupe de jeunes. Et alors, ils ne sont pas toujours 50 au groupe de jeunes quand ils se réunissent, mais malgré tout, ça ne passe plus. Ils se réunissaient avant sur la mezzanine, dans la mezzanine là-haut. Ça ne passe plus, donc ils s'organisent ici, mais ils aimeraient aussi avoir un lieu qu'ils puissent investir, qu'ils puissent décorer comme ils veulent, un lieu qui soit un peu plus pérenne que d'avoir à réinstaller à chaque fois ici. Donc la maison Le Jaune, c'est un lieu qui sera à la fois plus confortable pour eux et qui en plus pourrait être l'occasion d'élargir encore leur cercle. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a aussi une chose que vous ne savez pas, c'est un scoop que je vous livre là. Même le conseil n'est pas au courant. Le scoop est le suivant. Je vais tout plaquer et devenir mannequin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, le vrai scoop, je ne sais pas si c'est un scoop d'ailleurs, mais bon, en tout cas, l'info que je vous donne, c'est que ça fait des années que je rêve d'un projet de ce type. Ça fait des années que j'ai en tête un lieu qui serait destiné à la jeunesse, qui fonctionnerait selon les valeurs du royaume. Un lieu où des jeunes qui n'ont peut-être jamais mis les pieds à l'église pourraient entrer, peut-être même sans savoir exactement où ils sont. On leur a juste dit que c'était sympa, cet endroit. Et ils pourraient expérimenter là ce qu'est la grâce, ce qu'est l'amour inconditionnel, ce qu'est le pardon. En somme, un lieu où ils pourraient rencontrer Jésus-Christ. Alors forcément, je me dis, et si cette maison était l'un des endroits où notre Église est appelée à briller au milieu du monde ? Alors c'est une affaire à suivre, bien sûr, mais une chose est sûre. Comme vêtue de harde, semblant en plein naufrage, la société soupire tout entière chaque seconde. Et Jésus, lui, nous regarde et nous dit sans embâge, « Vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière du monde. » Ça ressemble à un dicton, à un refrain gentillé. Rien de cela n'est vrai. C'est notre identité. Je vais prier. Seigneur, c'est une affirmation que tu fais sur nos vies. On nous colle souvent des étiquettes sur le dos, des choses qui sont fausses, qui ne viennent pas de toi, qui viennent de l'ennemi, des choses qui nous rabaissent, qui nous maintiennent à terre. Et toi, tu arrives, tu enlèves toutes ces fausses identités et tu nous dis qui nous sommes. Et tu nous as dit, à nous, nous tes disciples, nous qui plaçons notre confiance en toi, nous qui voyons ton Fils comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, tu nous as dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Seigneur, je crois qu'on peut confesser devant toi tous que nous avons bien du mal à entrer pleinement et complètement dans tout ce que ça veut dire de cette dimension de notre identité. Ça nous paraît énorme, trop grand, comme un vêtement dans lequel on flotte, on nage, parce qu'on est bien trop petit là-dedans. Pourtant, c'est ce que tu dis de nous, Seigneur. Et nous voulons accueillir cette parole avec foi. Nous sommes sel de la terre, nous sommes lumière du monde. Seigneur, nous voulons, ou plutôt je te prie, Seigneur, de nous aider à nous en rappeler en toute occasion. Seigneur, quand nous sommes dans des choses qui peut-être nous semblent tellement éloignées de la foi, de la spiritualité, on est là au boulot en train de, je sais pas, en train de galérer dans de la paperasse ou en train de faire des choses qui nous déplaisent, en train d'essayer de, peut-être de pacifier une situation compliquée au boulot et ça nous semble tellement peut-être terre à terre, Seigneur. Et pourtant, tu nous dis que là, quand on est là, à cet endroit-là, nous sommes sel de la terre, nous remplissons pleinement notre vocation. Seigneur, donne-nous de nous en rappeler dans ces moments qui peuvent paraître parfois arides, parfois difficiles, dans ces lieux où peut-être on ne peut même pas ouvrir la bouche pour parler de toi, mais on peut être qui nous sommes. Et déjà, en étant qui nous sommes, tu dis que nous sommes sel de la terre. Nous empêchons ce monde de se décomposer. Seigneur, merci pour cette vocation glorieuse qui est la nôtre. Donne-nous vraiment d'en prendre pleinement conscience dans tous les instants de notre vie. Et Seigneur, tu dis aussi que nous sommes lumière du monde. Et là aussi, je crois que nous pouvons confesser devant toi que finalement, dans cette société où nous avons ce privilège de pouvoir parler de toi sans risquer notre vie, eh bien, bien souvent, on n'ose pas. On met la lumière sous le boisseau parce qu'on a peur de ce que les autres pourront penser, pourront dire, parce qu'on veut garder les liens d'amitié, parce qu'on sait que ça peut créer une distance. Donne-nous de la sagesse, Seigneur. Il s'agit de témoigner à temps et à contre-temps, mais il s'agit aussi d'être sage et d'avoir du discernement pour voir... Comment te présenter au monde, comment amener les gens à toi, comment leur faire connaître qui tu es, par-delà leurs préjugés, par-delà toutes les idées fausses qu'ils ont sur toi, sur ce qu'est la foi, sur ce qu'est l'Église. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi, de ta sagesse, nous avons besoin que ce soit toi qui nous conduise, qui nous montre les opportunités que tu nous offres, et qui nous montre aussi comment nous en saisir, de quelle manière faire, de quelle manière procéder, Seigneur. On veut être sage, parce que l'objectif, c'est vraiment que les gens puissent te rencontrer. Qu'ils puissent te rencontrer, toi. Nous te remettons notre entourage. Dans cette approche de Noël, nous allons nous rencontrer avec nos familles, peut-être nos amis, avec le premier de l'an. Seigneur, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui errent comme des brebis sans berger. Beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, qui vivent dans l'obscurité, pour qui les lumières de Noël, ce sont juste des décorations, Seigneur. Nous te prions pour que, en notre présence, ils puissent discerner autre chose que des décorations de Noël. Que la lumière soit plus profonde, plus intense. Que quelque chose soit semé dans leur vie. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen.